Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il était deux fois, oui, deux fois, les croisades. Nous les connaissons, ces croisades, de l'an 1095, quand le pape Urbain II appelle à la croisade depuis la ville de Clermont jusqu'en 1291, avec la prise ou la reprise de Saint-Jean d'Acre. Les connaissons-nous vraiment, ces croisades? Nouveau regard sur les croisades. Était-elle la principale préoccupation des musulmans? Et comment se sont-elles étendues sur d'autres fronts, cette fois européens? Gabriel Martinez-Gros, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, quand nous évoquons ce mot croisade, c'est vrai que nous sommes tout de suite plongés dans un imaginaire guerrier que nous connaissons. Il y a des livres, il y a des films, il y a énormément d'études. Il est nécessaire malgré tout, et c'est ce que vous faites hein, de l'autre côté des croisades que vous publiez, de décentrer la question pour mieux comprendre tous ces enjeux. Comment avez-vous procédé? Vous vous êtes... placé en fait au cœur même des croisades, mais qui n'est pas Jérusalem. C'est là où se trouverait le pouvoir, c'est ailleurs.
Voilà, je me suis placé en particulier du côté de certains des historiens arabes, de langue arabe, des croisades. Et effectivement, une des choses les plus significatives et les plus étonnantes, c'est que ils ont beaucoup de mal à accepter l'interprétation religieuse des croisades que nous avons très spontanément nous en tête. Pour eux, les croisés sont autre chose, et l'explication la plus finalement la plus convaincante qu'un historien d'ailleurs du 20e ou du 21e siècle peut accepter ou du moins examiner, c'est que les croisades sont une tentative de reconstitution de l'Empire romain, une tentative de reconquête du Mare Nostrum. C'est effectivement présent dans le discours du Urbain à Clermont en 1095, les nouvelles acquisitions, les nouvelles reconquêtes de la chrétienté, en particulier en Espagne et en Sicile, sont notées dans ce discours. Et au total, à la fois la défense de l'Empire byzantin et la reconquête de Jérusalem font partie de ce, ou pourraient faire partie de ce même plan de reconstitution du Mare Nostrum, reconstitution de cet empire dont l'Occident ne s'est jamais consolé de la perte.
Quand la religion tue, aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, les croisades, avec ce que vous nous dites, Gabriel Martinez-Gros, l'origine même, la volonté, l'objectif de ces croisades, en remontant eh bien, à ce discours en 1095 d'Urbain, bien sûr, il y a de la religion. C'est l'argument principal de dire libérer la Terre Sainte. Mmh. Vous nous dites que déjà dans ce discours, il n'y a pas que cela.
Il n'y a pas que cela, non. Dans les à côté, dans les attendus de ce discours, Urbain signale que quelques très vieux sièges épiscopaux, qui n'étaient plus que des souvenirs littéraires ou textuels dans la mémoire collective de l'Église, viennent d'être reconquis, comme Tarragone, comme Syracuse, que les Normands viennent de reconquérir, enfin ont reconquis quelques dizaines d'années auparavant. Mais Tarragone, c'est tout récent, en 1095, c'est une dizaine d'années auparavant, que la ville de Tarragone a été réoccupée. Ça n'est plus qu'une ruine, ça n'est plus la grande métropole qu'elle avait été sous l'Empire romain. Mais le nom chante, et c'est important, c'est comme vous le disiez, nous avons en tête une mythologie des croisades, mais ce qui est assez remarquable, c'est que les auteurs et les acteurs des croisades avaient eux-mêmes une forme de mythologie antérieure, qui était celle de l'Empire romain en particulier, de ce latin qu'ils parlaient quotidiennement et qui leur livrait tout un monde de souvenirs.
Le pape Urbain II.
Ô fils de Dieu, il importe que sans tarder vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent le pays d'Orient. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs et les Arabes, ont envahi leur pays. Ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens, après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Je vous exhorte et je vous supplie, et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-même. Vous, les héros du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne.
L'appel à la croisade lancé par le pape Urbain II en 1095 à Clermont, c'est une lecture de Jean H. dans Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Et justement, quand nous écoutons ce texte, Gabriel Martinez-Gros, il faut faire un petit peu de géographie. Le pape évoque nos territoires. Non mais c'est essentiel, c'est vrai, pour saisir l'importance des croisades. En fait, les territoires revendiqués par le pape, ce n'est qu'une marge, c'est tout petit par rapport à l'immense empire islamique.
Oui, absolument. Nos territoires, alors c'est significatif quand même, hein, c'est le territoire de l'ancien empire romain, et ça inclut l'empire byzantin de cette époque, c'est-à-dire Constantinople, l'ouest de la Turquie d'aujourd'hui et les Balkans. Mais vous avez tout à fait raison, c'est une part tout à fait minime de l'empire islamique. L'offensive franque va porter, alors sur l'Espagne, qu'il ne faut probablement pas séparée. En tout cas, dans la vision des plus lucides des historiens arabes, elle n'est pas séparée de la Terre Sainte. Espagne, Sicile et Terre Sainte, c'est-à-dire le littoral de la Syrie-Palestine et Jérusalem. Jérusalem qui est une petite ville, hein, au total. Aucune des grandes villes de Syrie, aucune des grandes villes de l'Empire islamique n'est occupée par les croisades. La ville la plus importante, c'est probablement Tripoli du Liban, qui est effectivement une capitale d'une certaine importance et qui reviendra dans l'escarcelle des Toulousains, hein, du comte de Toulouse. Voilà, vous avez tout à fait raison. Les blessures infligées par la poussée franque en général, les croisades d'Orient en particulier, sont pénibles, mais elles ne sont pas mortelles, à la différence d'autres invasions dont on parlera peut-être, c'est-à-dire des invasions mongoles qui vont alors dévaster le cœur du monde musulman.
Non mais c'est en cela, hein, Gabriel Martinez-Gros, que votre regard est très très pertinent sur les croisades. Vous êtes professeur émérite d'histoire médiévale à l'université de Nanterre et vous publiez De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols, hein, chez Passé Composé. Justement, c'est cela qui est incroyable, de se dire que nous focalisons cette histoire sur les croisades, ce qui est tout à fait normal, c'est notre regard à nous, mais que pour un musulman qui est installé à Bagdad dans ces siècles-là, 13e, 14e siècle, la crainte vient de l'autre côté.
Voilà. Voilà. Il y a une frontière assez nette au total à l'est et à l'ouest de l'Euphrate. Je crois que nos lecteurs ou nos auditeurs sont devenus presque familiers de la géographie du Moyen-Orient avec tous les événements que nous connaissons. Mais en gros, la Syrie est très profondément évidemment concernée, impactée par les croisades ou par la lutte contre les croisades. L'Irak, pas du tout. À partir de l'Euphrate, un autre monde s'ouvre qui n'a été que peu intéressé par les croisades et qui sera au contraire totalement dévasté par les invasions mongoles, puisque les Mongols détruisent Bagdad en 1258.
Et justement, pour savoir tout cela, Gabriel Martinez-Gros, vous vous appuyez sur les écrits des historiens arabes. Qu'en disent-ils de ces croisades? Vous nous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à comprendre qui sont ces croisés.
Voilà. En gros, il y a trois hypothèses. Les deux premières, c'est que les croisés sont des mercenaires, mais au service de qui? Alors, la première hypothèse, c'est qu'ils sont au service des Byzantins, ce qui est une déformation, évidemment, de la réalité émotionnelle de la croisade, mais ce qui n'est pas sans retrouver le projet, en fait, du pape. Il nous faut porter secours aux Byzantins, à l'Empire byzantin, qui est bousculé par les invasions turques, en effet, depuis les années 1070, depuis la fameuse bataille de Manzikert, au cours de laquelle les Turcs ont écrasé l'empereur byzantin et l'ont capturé d'ailleurs l'empereur romain Diogène. Donc il nous faut porter secours aux Byzantins, et donc la première hypothèse, c'est que les Francs sont des mercenaires des Byzantins. La deuxième hypothèse, extrêmement dangereuse à l'intérieur du monde musulman, mais justement ce sont, exactement comme nous sommes centrés sur notre monde, les musulmans sont centrés sur le leur, c'est que les croisés sont des mercenaires des chiites, en fait, et en particulier du grand pouvoir chiite des Fatimides qui est établi en Égypte. Les croisés se seraient établis précisément à la frontière sur la ligne de front qui séparait les chiites égyptiens établi en Égypte, je veux dire, et les Turcs sunnites dominants en Syrie. Et donc, ils empêchent les Turcs d'envahir l'Égypte et d'en finir avec le califat fatimide, comme ils finiront par le faire, d'ailleurs, à la fin du XIIe siècle. Et la troisième hypothèse, en particulier celle d'Ibn Khaldoun, le plus grand, sans doute, des historiens que je sollicite, c'est celle qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la reconstitution du Mare Nostrum. Cette poussée franque vise essentiellement à la reconstitution de l'Empire romain. Et Ibn Khaldoun arrête donc son histoire des croisades à la prise de Constantinople. Le but de la croisade, ça n'est donc pas Jérusalem, c'est Constantinople. Ce qui, au XIIIe siècle, là encore, n'est pas absurde. En effet, peu à peu, les croisés attaquent de moins en moins directement Jérusalem et lui substituent d'autres cibles. Islamique, l'Égypte en particulier, hein, qui est sans doute la cible principale des expéditions de croisade du XIIIe siècle, la Tunisie, puisque Saint-Louis lui-même mourra à Tunis, et puis Constantinople, en effet, que nous présentons dans notre historiographie comme une déviation de la croisade, comme une erreur, un accident, et que Ibn Khaldoun présente comme un projet, au contraire, accompli. Hein, c'est Constantinople, c'est-à-dire la reconquête de la capitale de l'Empire romain, telle qu'elle avait été édifiée ou réédifiée par Constantin, qui était le but véritable de la croisade. En fait, chaque monde se recentre sur lui-même, hein, à la fin de la croisade, hein, le monde islamique sur lui-même et le monde chrétien sur lui-même, c'est-à-dire sur ses propres problèmes, sur sa propre histoire, sur ses propres références, et ces références sont romaines, constantinopolitaines.
Voilà, parce que c'est la mise en place des données du problème, où nous avons dans notre lecture des chrétiens qui vont libérer la Terre Sainte et qui s'affrontent à des musulmans. Mais vous nous dites, Gabriel Martinez-Gros, que les musulmans sont divisés, sunnites, chiites, et oui, il faut le rappeler toujours, qu'ils ont d'autres craintes, ce sont les Mongols. Il faut rappeler que du côté des croisés aussi, tout n'est pas très clair.
Ah. Messire Gaston du Potage.
Non, de Bouillon.
Ah, Gaston de Bouillon.
Non, Godefroy.
Ah, Godefroy de Potage.
Non, Godefroy de Bouillon. Asseyez.
Ah, très honoré, je me présente, Hugues de Vermandois. Et depuis combien de temps faites-vous le siège en Jérusalem?
Depuis 20 minutes.
Ah, eh bien, alors je ne suis pas trop en retard.
Mais dis donc, en fait, pourquoi n'êtes-vous pas arrivé en même temps que nous?
Eh bien, il y avait un bouchon à la sortie de Liège, et quand je suis arrivé à Ratisbonne, vous veniez de partir.
Ah bon?
Depuis 5 mois.
Ah, évidemment, avec le club, l'heure, c'est l'heure.
Le club.
Oui, le club de vacances. Vous n'êtes pas membre?
Membre de quoi?
Membre du club.
Le club.
Le club de vacances.
Le club de vacances. Non, je ne vous suis pas, le Bouillon.
Encore un peu de soupe?
Non, merci.
Vous êtes bienvenu ici avec le club de vacances organisé par le pape Urbain II.
Le pape?
Le pape.
Mais le pape n'a jamais organisé de club de vacances.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Ben, je suis venu faire la croisade.
La quoi?
La croisade.
La croisade? Quelle croisade?
Eh bien, la croisade pour délivrer les lieux saints.
Mais je suis pas venu ici pour délivrer les lieux saints, je suis venu pour les visiter.
Les visiter?
Oui.
Enfin, expliquez-vous, Godefroy.
Ben, c'était froid.
Godefroy.
Chaud ou froid, expliquez-vous.
Oui, ben voilà.
Je voulais passer absolument un mois de vacances au soleil.
Mais Godefroy, il ne s'agit pas de vacances, c'est la guerre.
La guerre?
Mais alors je m'en vais.
Mais non, mais la guerre sainte.
La guerre sainte, alors je reste.
Les croisades vues par les frères ennemis, alors ce ne sont pas les chrétiens et les musulmans, parce que d'ailleurs, il y a toute une discussion à faire hein, sur les ententes autour de la Méditerranée entre chrétiens et musulmans. Non, c'est le duo comique, les frères ennemis. Gabriel Martinez-Gros, c'est quelque chose que nous savons désormais, et c'est sous-entendu dans ce que vous nous dites, la motivation religieuse de libérer la Terre Sainte, mais les historiens l'ont montré, en fait, s'appuie sur d'autres objectifs. Quand le pape appelle à libérer la Terre Sainte, il a aussi un intérêt à ce que tous ses chevaliers partent, et les souverains en Europe ont aussi intérêt à pacifier l'Europe en trouvant un ennemi commun.
Oui, certainement, avec une grande différence d'ailleurs entre les deux siècles de la croisade. Le XIIe siècle est le siècle de la papauté et des chevaliers, fondamentalement. Et très curieusement, ce sont ces croisades-là qui réussissent le mieux, en particulier la première, tout simplement, qui part à peu près sans savoir où elle va, parce qu'elle n'a ni carte ni orientation précise, et qui réussit, et qui s'empare, en effet, du but suprême, c'est-à-dire de Jérusalem. Au contraire, au XIIIe siècle, ce sont les rois, en effet, vous avez tout à fait raison, qui reprennent la direction des croisades, parce que en général, ils reprennent en Occident la direction des sociétés. Hein. Et donc, des royaumes, en particulier les deux grands personnages, aux yeux des chroniqueurs arabes en tout cas, les deux grands personnages du XIIIe siècle sont deux rois venus d'Occident, c'est-à-dire l'empereur Frédéric II d'Allemagne et le roi Saint-Louis, bien sûr, hein, notre Saint-Louis, qui laisse un souvenir tout à fait étonné. Hein, dans le récit qu'en font les chroniqueurs arabes, ceux du moins qui s'intéressent aux personnages, parce que j'ai choisi pour chroniqueur ou pour historien l'un des historiens qui s'intéresse le plus passionnément aux forces sociales et le moins aux individus, malheureusement, c'est-à-dire Ibn Khaldoun. Il n'y a malheureusement pas d'individus dans l'histoire selon Ibn Khaldoun, mais dans l'histoire selon Ibn al-Asir, l'autre historien que je mets en regard d'Ibn Khaldoun, effectivement, non pas Saint-Louis, mais parce qu'il meurt avant les croisades de Saint-Louis, mais beaucoup d'autres croisés sont présents. Et puis, on a des récits sur Saint-Louis tout à fait étonnants par d'autres historiens que j'utilise au passage un peu moins profondément.
Et justement, dans ce regard des historiens arabes sur les croisés, nous sentons bien, et vous nous l'avez dit, que des mercenaires, éventuellement byzantins, éventuellement sunnites, etc. Oui. Est-ce que l'aspect religieux apparaît ?
Presque jamais, et il faut bien dire, c'est un monde, ce monde musulman où évoluent ces historiens arabes, que ce soit Ibn al-Asir, alors donc au début du XIIIe siècle, en gros Ibn al-Asir, ou que ce soit Ibn Khaldoun qui lui écrit dans la deuxième moitié du XIVe siècle, donc beaucoup plus tard, c'est un monde vieux, si j'ose dire, et donc un monde assez sceptique sur et qui a assez profondément séparé finalement le religieux du politique. Le politique a sa propre vie, à sa propre existence, ses propres logiques, et qui se sépare tant dans le monde chrétien que dans le monde musulman des raisons du religieux, en effet. Hein. Les explications sont peu religieuses à propos des croisés, mais elles ne le sont guère plus à propos des princes musulmans. Hein, eux aussi ont très profondément des visées et des buts politiques, plutôt que des visées et des buts religieux, sauf peut-être dans la deuxième moitié du XIIe siècle, Saladin Nourad-Din. Il y a un ou deux personnages qui, peut-être pour compenser la faiblesse de leurs forces militaires, peut-être pour compenser leur illégitimité, se servent du religieux.
Et vous nous l'avez dit, Gabriel Martinez-Gros, le gros souci aussi de ces Arabes, ce n'est pas tant les croisés qui arrivent du côté de Jérusalem que les Mongols.
Une certaine race d'hommes monstrueux et cruels était descendue des montagnes du nord. Elle avait envahi une vaste et riche étendue de terre en Orient. Elle avait dépeuplé la Grande Hongrie et avait envoyé partout des lettres comminatoires et des ambassades terribles. Leur chef se disait l'envoyé du Très-Haut pour dompter les nations rebelles. Ces barbares ont de grosses têtes tout à fait disproportionnées pour leur corps. Ils se nourrissent de chair crue et même de chair humaine. Ils ont des chevaux très rapides qui peuvent en un seul jour parcourir l'espace de 3 journées de marche. Ils sont bien armés par devant et sans armure par derrière pour que la fuite leur soit interdite. L'ambassadeur Sarrazin s'était donc rendu auprès du roi de France avec mission, de la part de tous les princes orientaux, d'annoncer ce qui se passait, de demander secours aux occidentaux, afin d'être plus en état de repousser la fureur des Tartares. Cet ambassadeur chargea aussi un des Sarrasins qu'il avait accompagné d'aller trouver le roi d'Angleterre, de lui raconter ce qui se passait, et de lui dire que si les Sarrasins ne parvenaient point à arrêter l'invasion de ces barbares, ceux-ci n'auraient plus qu'à dévaster les pays d'Occident.
La grande chronique de Mathieu Paris, lue par Daniel Königsberg dans le cours de l'histoire sur France Culture, donc une chronique du XIIIe siècle, à propos, alors, la fureur des Tartares. Gabriel Martinez-Gros, de l'autre côté des croisades, est-il aussi question de religion de ce côté-là, ou alors pas du tout, nous sommes dans une lecture de peuple qui envahit un autre peuple?
Alors, dans la lecture islamique à laquelle je vais me tenir, parce qu'il y a une autre lecture qui serait chinoise, hein, bien sûr, des Mongols, hein, des invasions mongoles, puisque la visée principale au total des Mongols, ça a été la Chine, hein, bien sûr, et que les grands khans ont fini empereur de Chine. Kubilai Khan a fini de fait empereur de Chine, et il a déplacé la capitale du monde mongol vers Pékin. Il a fait de Pékin la capitale qu'elle est aujourd'hui. Ce sont les Mongols qui ont fait de Pékin la capitale de la Chine, étrangement. Donc, laissons de côté l'interprétation chinoise sur laquelle je ne vais pas me prononcer, mais dans l'interprétation islamique, ben justement, les Mongols ne trouvent pas d'interprétation, en particulier pour ceux qui vivent l'événement. L'événement est tellement énorme, il paraît tellement apocalyptique, qu'il dépasse les explications humaines. On explique les croisades, on explique la poussée des Occidentaux, on n'explique pas cette énorme vague, et si on y voit un aspect religieux, c'est celui de l'apocalypse, évidemment. Hein. Ils viennent en outre, effectivement, de ces pays du nord du monde, ces pays du Nord-Est, d'où on attend les peuples de l'Apocalypse, d'où on attend Gog et Magog qui mettront fin à l'humanité. Et donc, pour Ibn al-Asil qui meurt en 1233, en pleine invasion mongole, les Mongols sont à une soixantaine de kilomètres de la ville de Mossoul où il vit au moment où il meurt en 1233, c'est un phénomène immense, énorme, écrasant, apocalyptique, hein, véritablement. Alors, pour Ibn Khaldoun, qui écrit un siècle et demi plus tard, et qui rencontre sous l'aspect de Tamerlan le dernier des grands envahisseurs mongols, enfin le dernier des grands descendants des invasions mongoles, le phénomène est plus maîtrisable, en particulier émotionnellement, même si les destructions mongoles, les destructions de Tamerlan sont presque aussi spectaculaires que celles que l'avait été celle de ses ancêtres un siècle ou un siècle et demi plus tôt. Mais on comprend mieux, Ibn Khaldoun comprend mieux qu'il s'agit en effet d'une vague d'invasion extrêmement profonde, extrêmement puissante, extrêmement dévastatrice, mais que ce ne sont que des hommes et qu'ils n'annoncent pas nécessairement l'apocalypse finale.
Oui, parce que dans toute cette lecture des croisades, et quand on dit croisade, ici, il faut plutôt penser à une période que les historiens et historiennes utilisent pour qualifier eh bien, ce qui s'est passé dans une partie du monde à un moment donné. Mais derrière ce mot croisade, nous avons croisé, nous avons la religion. Et vous, Gabriel Martinez-Gros, cette religion est mise de côté, en fait.
En fait, assez. Le mot croisé est tardif en Occident. Il est du 14e, 15e siècle, au-delà de la fin des croisades de Terre Sainte. Et alors, en arabe, il est du 20e siècle. C'est-à-dire que c'est sous l'effet des traductions, en particulier du français d'ailleurs, que l'arabe va adopter le mot croisé et l'adopter massivement. En tout cas, dans le mouvement des frères musulmans, les croisés, ce sont désormais les occidentaux en général, hein, puisque le but fondamental des occidentaux pour l'idéologie des frères musulmans, ça a été de nuire à l'islam depuis leur origine, pratiquement. Ils ne sont là que pour ça.
Voilà, c'est une lecture tardive de ces événements-là à des fins politiques, évidentes, politique, mais oui. Au moment donné où toutes ces idées sont mises en place, ce qui est donc très proche de nous, en fait.
Absolument. Et effectivement, ce qui frappe peut-être chez les historiens arabes, chez ces très grands en tout cas, c'est qu'ils sont étonnamment proches de nous. Ils sont dans la position de l'empire central, de la civilisation par excellence, qui s'étonne qu'il existe d'autres mondes ou d'autres façons de penser et qui le constate cependant.
Voilà, Chevalier, le salut est beaucoup plus probable. C'est une chanson, un chant médiéval composé pour le roi Louis VII et ses chevaliers au moment du déclenchement de la deuxième croisade. Nous sommes en 1145.
Chevalier Mouton. protestes moadits, quam Deo a vos falsa clamur, restures et es omanavits, qui diun faest et stese nos, creator tuns et fius salsits, vienende cum saper donur, per la fudeu prime servi, per reconur, pur se nur. Dio venirà, amor, Dum Christiens und es maies, les mustiers ars et esertets, deus mies mais sacrificiets, si vales es vos purpensets, vos quidar mes estes presets, a senui vos corpeseles, qui pur vos futen vos treques. Si olerina al
mori, Chevalier, Moult este gerit. Alors je le prononce pas bien, parce que c'est du vieux français, mais chevalier, le salut est beaucoup plus probable. C'est dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig, avec aujourd'hui à la technique Maïwenn le géant, quand la religion tue. Les croisades, avec des regards décentrés sur les croisades, pour bien montrer que, ben, pour les musulmans, ces croisades ne sont peut-être pas la principale des préoccupations, et d'ailleurs elles ne sont peut-être pas religieuse, et puis décentrée pour aller voir les croisades ailleurs. Loïc Chollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire médiévale, chargé de cours à l'université de Fribourg. Dites-moi, dernière croisade, le voyage chevaleresque en Occident à la fin du Moyen-Âge, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Vendémiaire, nous conduit loin du soleil de l'Orient.
Oui, effectivement, cet ouvrage recouvre un petit peu toutes les croisades qui ont eu lieu après la perte de la Terre Sainte pour les chrétiens, donc après 1291. Et je couvre les différents fronts qui vont de la Baltique aux Balkans, la Méditerranée, la péninsule ibérique et jusqu'aux îles Canaries, où on a eu une croisade aux îles Canaries.
C'était quoi cette croisade aux îles Canaries? C'était une croisade, je ne connais pas du tout la situation des Canaries. Qu'y a-t-il aux Canaries?
Alors, pour les hommes qui prennent part à cette expédition, il y a deux choses. D'une part, des infidèles à évangéliser, des mécréants, comme on les définit dans le vocabulaire du temps. Et il y a également de l'orzeille, qui est donc un matériel important pour l'industrie textile. Et il faut savoir que l'un de ceux qui prennent la tête de cette expédition aux îles Canaries est un grand seigneur normand qui a des intérêts dans le commerce textile.
Derrière la croisade, derrière la guerre, sous motif religieux, nous le sentons bien, il y a sans cesse des intérêts. Ici, c'est un intérêt commercial, oui. Ailleurs, c'est un intérêt territorial. Et justement, oui. Parmi toutes ces croisades, hors de celles que nous connaissons si bien, qui nous conduisent en Terre Sainte, il y a quand même des héros de l'histoire, les chevaliers teutoniques.
Personne n'aura vu une aussi grande bataille au cours de ce siècle.
Nous ignorons le nombre des soldats teutoniques.
Sous leurs étendards, ils sont une centaine de mille. Jamais il n'y en eut autant.
Quel est le nom de ce village que l'on voit au loin derrière l'armée teutonique?
Grunwald. Regardez, mes frères.
Mon gracieux seigneur, les teutons sont en ordre de bataille.
Notre grand maître, Ulrich von Jugingen, provoque sa majesté le roi de Pologne et le prince Witold à un combat sans miséricorde. Et pour tenter d'allumer en vous une étincelle de bravoure et d'ardeur guerrière, il vous envoie ses deux épées.
Liechtenstein! Attaquez!
Les Chevaliers Teutoniques, le film d'Henry Ford en 1960. Loïc Chollet, justement, comment comprendre ces croisades vers le nord? C'est-à-dire qu'il y a la conscience qu'après la perte de Saint-Jean d'Acre, il n'y a plus rien à faire en Terre Sainte, mais il faut toujours un lieu de croisade.
En fait, c'est un peu plus compliqué que cela, parce que la croisade dans le Nord commence à peu près en même temps que la croisade au Proche-Orient. Il faut savoir que dans l'Europe médiévale, déjà avant le discours du pape Urbain II, la notion qu'un chevalier, un seigneur, doit mettre son épée au service de l'Église est très présente. Le Saint-Empire romain germanique, par exemple, s'est constitué sur l'affrontement contre les païens, slaves ou hongrois. Alors, l'histoire de l'affrontement entre chrétiens et païens dans la région balte est en fait très ancienne. Ça devient, à proprement parler, une croisade en 1147, quand le prédicateur de la deuxième croisade, Bernard de Clairvaux, est harpagué par un groupe de barons allemands qui lui font savoir qu'il participerait volontiers à un combat pour l'Église, mais pas en Terre Sainte parce que c'est trop loin de chez eux. Or, ils lui disent, ben, y a des païens tout près de chez nous, du côté de la Baltique, est-ce qu'on pourrait trouver un arrangement ? Et Bernard donne son accord. Donc on considère que la croisade balte naît en fait en 1147.
Justement, allez-y Loïc oui. Chollet.
Ce qui change après la perte de Saint-Jean d'Acre, c'est que les chevaliers, non pas seulement originaires d'Europe centrale ou du Saint-Empire, mais également les Français, les Anglais, se retrouvent sans possibilité d'aller affronter l'infidèle en Terre Sainte, puisqu'il n'y a plus aucune possibilité de monter une expédition, et on en est rapidement conscient. Or, l'esprit de croisade souffle toujours. Il reste très présent dans la culture aristocratique des derniers siècles du Moyen-Âge. Un chevalier est incité à aller gagner de l'honneur en se battant contre l'infidèle. Alors, où aller ? Eh bien, la destination la plus évidente, c'est la Baltique.
Alexander Ford, qui a réalisé le film Les Chevaliers Teutoniques, donc nous avons entendu un extrait, le montre bien. Alors évidemment, avec Alexander Ford, nous sommes récemment, nous sommes dans les années 60, mais il y a presque la même volonté de créer cette identité avec les Chevaliers Teutoniques. Partir tous ensemble en croisade crée une identité et des liens très étroits entre tous ces hommes.
Effectivement, et c'est peut-être l'un des aspects qui m'a le plus frappé en menant mes recherches, c'est que les croisades d'après la chute de la Terre Sainte, donc ces croisades européennes ou essentiellement européennes, sont utilisées pour mettre en scène et essayer de souder la chevalerie européenne. L'idée que, au-delà des guerres de parti ou des guerres nationales, les Anglais contre les Français, les pro-Bourguignons contre les pro-Orléans, eh bien, au fond, nous sommes tous des chevaliers catholiques et nous devons nous soutenir les uns les autres contre l'infidèle, qu'il soit païen, musulman et contre les hérétiques.
Et justement, ce changement d'échelle qui nous permet de passer de la Terre Sainte à l'Europe jusqu'au nord, jusqu'en Lituanie, c'est aussi, Gabriel Martinez-Gros, ce changement d'échelle que vous réalisez en regardant le phénomène des croisades, mais qui prend en compte tout ce qui se passe là-bas, alors on dit l'Extrême-Orient, mais en tout cas dans ce monde mongol. Mais ce qui m'intéresse vraiment dans toute cette histoire, c'est que croisades, chevaliers teutoniques, tout cela est baigné de religions telles que la chose est présentée, mais en fait, l'un et l'autre, hein, Loïc Chollet et vous, Gabriel Martinez-Gros, vous parlez très peu de religion. Quand la religion tue, en fait, ici, nous avons le prétexte ultime, mais tous ces gens-là avaient-ils le sentiment d'aller se battre pour la religion vraiment ? Était-ce un prétexte, en fait ?
Je repasse du côté occidental cette fois-ci, je laisse de côté mes chers musulmans, mais il y avait l'idée de la souffrance de l'ITER, du passage, la souffrance du voyage. Au total, on meurt probablement au moins aussi souvent sur la route de Jérusalem, qui est très longue, très pénible, que même si les expéditions maritimes prennent peu à peu le dessus à partir de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, qu'on ne meurt au combat. Et cette souffrance, c'est celle qu'on offre au Christ. Christ, oui, c'est très probablement. C'est un pèlerinage avec tout ce que le mot pèlerinage implique et effectivement de difficultés pour le pèlerin au Moyen-Âge, bien sûr.
Ce qui est fort dans ce que vous dites, Gabriel Martinez-Gros, c'est que la volonté d'atteindre le salut par la souffrance lors du voyage, par exemple, n'est pas tant celle d'aller massacrer des musulmans. Libérer la Terre Sainte, c'est libérer un territoire, mais la motivation n'est pas le massacre de l'autre.
Non. Non, et c'est la même chose du côté musulman. Les armées musulmanes comportent souvent des milliers d'hommes de religion qui se joignent au combat, ce qui explique que lors des défaites, des pertes absolument monstrueuses. En général, les soldats réussissent à s'en tirer, mais les hommes de religion, non, parce qu'ils savent pas courir, évidemment, et ils ne savent pas se battre. Donc, ils sont massacrés par milliers, mais c'est le but. Le but, c'est de trouver le martyr au moment de la bataille contre l'ennemi, et à la limite, peu importe l'ennemi, à condition qu'il ne soit pas musulman, bien sûr, hein, peu importe l'ennemi qui vous met à mort. C'est à Dieu qu'on offre sa mort, en effet, qu'on offre son témoignage, puisque c'est ce que veut dire le martyr.
Loïc Chollet, quelle est la place de la religion dans ces croisades, ces dernières croisades que vous évoquez? Il y a évidemment une similitude à tirer entre ce qui s'est passé en Terre Sainte et ce qui se passe dans le nord de l'Europe.
Oui, et ce qui est très intéressant par rapport à ce que Gabriel Martinez-Gros vient de dire, c'est qu'on retrouve l'idée que un noble, pour gagner de l'honneur, doit mettre son corps en péril, en difficulté, pour prendre des risques. Mais cette notion est décrite dans la littérature nobiliaire comme quelque chose du domaine de l'héroïsme, sans que ce soit explicitement connoté religieusement. En fait, on a un petit peu l'impression que plus l'auteur est proche de l'Église et plus il va mettre en avant des éléments spirituels, l'imitation du Christ, tout ce genre de choses, et plus l'auteur en est éloigné, plus il va mettre en avant l'héroïsme du noble qui est prêt à quitter ses terres pour aller vivre des aventures dangereuses et mettre sa vie en danger.
D'accord, mettre sa vie en danger pour voilà. Atteindre son salut, c'est cette lecture que nous pouvons avoir de ces croisades qui ont produit des tonnes de héros.
Un petit bain dans la mer, voilà qui serait de saison. Nous n'irions pas vers Saint-Jean-d'Acre par hasard?
France Culture.
Alors, t'es toujours fâché?
Je n'aime pas les gens qui n'ont pas de respect pour les croyances des autres.
Le cours de l'histoire.
Allez, yeah.
Xavier Mauduit.
Les chevaliers teutoniques, tous ces héros, Godefroy de Bouillon et tous les autres, des héros forts, solides, c'est tel que nous les représentons, tels que nous les offre, évidemment. Et puis à côté, il y a Perceval le Gallois.
Vassal, qui t'avance vers moi. Montre-moi donc quel est le roi.
Ami, c'est lui, voyez-le là.
Sire roi, soyez salué. Soyez salué, sire roi. Ce roi ne fit chevalier onc. Comment pourrait chevalier faire quand on n'en peut parole traire?
Bon frère, bienvenue soyez.
Faites-moi chevalier, fait-il, sire roi. Car allez m'en veut.
Clairs et riants étaient les yeux en la tête aux vallées sauvages. Nul qui le voit ne le croit sage.
Mais tous ceux qui là le voyaient.
Pour beau et noble le tenaient.
Perceval le Gallois, le film d'Éric Rohmer en 1978, avec un héros sans doute sensationnel, mais que nous imaginons mal, avec une énorme épée en train d'aller combattre les Sarrasins. La place de la littérature dans cette construction, Gabriel Martinez-Gros, est essentielle. Évidemment, créer le héros qui s'en va au combat. Vous avez choisi, du côté des musulmans, de regarder les historiens, ce que disent les historiens. Ce n'est pas la même démarche que la littérature. Va-t-on trouver, justement, dans ce monde arabo-musulman, une littérature qui exalte le chevalier guerrier qui va défendre la foi?
Non, Je ne crois pas. La question me prend au dépourvu, ce dont je crois pouvoir déduire qu'il n'y en a pas, bien sûr, puisque sans quoi quelque chose me reviendrait à la mémoire. Non, guère. Il n'y a pas non plus, d'ailleurs, beaucoup d'exaltation des conquêtes arabes proprement dites, des premières conquêtes, des conquêtes fondatrices. La littérature arabe est au total fondamentalement centrée sur la poésie, bien sûr. Une poésie qui peut être guerrière lorsque c'est celle de la tribu, mais qui est beaucoup plus volontiers encore amoureuse. C'est l'essentiel de la poésie et de la littérature. Donc, mais ça n'est pas de ce point de vue peut-être très différent en Occident. Là aussi, l'amour tient un rôle, l'amour courtois tient un rôle tout à fait central dans la littérature.
Loïc Chollet, pour vos chevaliers qui partent en croisade dans le nord de l'Europe, là, nous avons une charge idéologique à travers la littérature extrêmement forte. Il est difficile pour l'historien de s'en départir.
Oui, alors effectivement, on a, comme vous le dites bien, une vraie charge idéologique et symbolique, parce que on ne compte pas les chroniques ou même les poèmes qui mettent en scène la valeur de ces chevaliers prêts à tout pour aller affronter l'infidèle en vivant des exploits tous plus héroïques les uns que les autres. Mais cela dit, il y a aussi beaucoup de moqueries. On a des textes, pour rester dans le domaine francophone, les 100 nouvelles qui datent de la toute fin du Moyen-Âge à la cour du duc de Bourgogne, et qui, par exemple, mettent en scène un chevalier parti en Prusse et qui se fait tromper par sa femme pendant son voyage. Donc on tourne aussi un petit peu cet héroïsme en dérision.
Oui, voilà, et c'est toujours bon de se moquer des teutons flingueurs. Mais Gabriel Martinez-Gros et Loïc Chollet, j'ai l'impression que vous arrivez aux mêmes conclusions, en fait. Gabriel Martinez-Gros, Loïc Chollet, l'un étudie les croisades dans le monde, alors arabo-musulman, pour le dire de manière extrêmement large. Voilà. Et l'autre étudie le nord de l'Europe. Loïc Chollet, en fait, avec ces dernières croisades, c'est toujours à soi-même que l'on parle. C'est pour fonder cette unité des chrétiens, et l'ennemi commun est très pratique pour en fait souder un territoire, un peuple, une population.
Bien sûr. Et d'ailleurs, on remarque que dans les textes qui sont écrits pour expliquer comment on devrait faire pour améliorer les performances des croisés, ou pour hiérarchiser les croisades, on a toute une littérature théorique de ce que devrait être la guerre pour l'Église. Alors là, l'idée que finalement on écrit à usage interne dans un but avant tout de réformer la chrétienté est très nette. Et finalement, l'ennemi commun ne sert plus que de prétexte, voire parfois de modèle. Un auteur comme Philippe de Mézières, qui est l'un des grands théoriciens de la croisade à la fin du Moyen-Âge, donne en exemple, par exemple, les Mamelouks égyptiens. En disant, ben voilà, ce sont des infidèles, mais ils ont un état qui fonctionne, ils sont pieux et chevaleresques à leur manière.
Peu importe en fait qui est cet infidèle, qui est l'ennemi, il nous faut un ennemi, et cet ennemi, il est regardé d'une manière assez particulière. Gabriel Martinez-Gros, cet ennemi-là, l'islam entre croisés et mongols, l'islam a son identité,
bien sûr,
qui est très forte, et j'ai presque envie de dire, ce sont les croisés, eux, qui sont à la recherche d'une... pas d'une identité, car ils l'ont déjà, mais en tout cas d'un discours qui leur parle à eux-mêmes. En allant faire la croisade, ils se parlent à eux-mêmes. Et bon, bah, l'ennemi est là, c'est un ennemi musulman, mais c'est pour eux.
Oui, oui, absolument. Les fractures de chaque camp, comme le disait Monsieur Chollet, je crois, sont plus aiguës que les querelles de frontières que chaque camp peut entretenir avec l'autre, véritablement. Ce que disait Monsieur Chollet me fait penser qu'effectivement, l'une des grandes ruptures, évidemment, sociale et politique et culturelle à l'intérieur du monde musulman, est entre ceux qui écrivent, et mes chers historiens par exemple, et qui écrivent en arabe encore à ce moment-là, et ceux qui se battent, car ceux qui se battent en turc. Ce qui explique sans doute que l'exaltation du héros soit beaucoup moins présente dans le monde musulman qu'elle ne peut l'être dans le monde chrétien, car il y a une véritable cassure culturelle entre les fonctions de la guerre et les fonctions de la religion. La guerre est fondamentalement, je voulais parler des Mamelouks, les Ottomans de la même façon, hein, la guerre est fondamentalement entre les mains des Turcs, la littérature et l'explication du monde est fondamentalement encore, au XIIIe ou XIVe siècle, encore en langue arabe.
Avec toutes ces fractures internes en fait qui sont passionnantes car elles sont évacuées souvent dans les études, les fractures entre chiites et sunnites,
bien sûr.
L'arrivée des Mongols qui provoque d'autres réflexions plutôt que de s'intéresser aux croisades. Et vous, c'est pareil, Loïc Chollet, au moment d'étudier ces dernières croisades, nous voyons une unité qui avance, mais en réalité, l'étude montre qu'il y a des divisions à l'intérieur de ce groupe de croisés.
Et les croisades peuvent même amplifier ces divisions. L'exemple typique, c'est la défaite cinglante que le sultan ottoman Bayezid inflige aux croisés en 1396, où on a une coalition de nobles français, bourguignons et hongrois qui marchent contre les Turcs. Et ils sont défaits. Alors, l'idée était de souder la chrétienté dans une alliance commune contre l'Empire ottoman, mais le résultat, c'est que les uns accusent les autres, on se rejette la faute parmi, et encore des années plus tard, certains auteurs bourguignons vont continuer de considérer les Hongrois comme des traîtres en puissance.
Oui, c'est vraiment ce jeu qui est passionnant dans ces deux regards. Le vôtre, hein, Loïc Chollet, Dernière croisade, le voyage chevaleresque en Occident à la fin du Moyen-Âge, aux éditions Vendémiaire. Et le vôtre, Gabriel Martinez-Gros, De l'autre côté des croisades, l'islam entre croisés et mongols, chez Passé Composé, la nécessité de changer les échelles, de prendre en compte les divisions internes et les vraies préoccupations, non pas celles reconstruites a posteriori. Merci vivement à vous deux de nous avoir expliqué le pourquoi du comment de ces croisades. Mais le pourquoi du comment, c'est maintenant sur France Culture. Le pourquoi du comment, c'est la parole laissée à Gérard Noiriel, grand historien de l'État-nation, de la xénophobie, de l'immigration. Le pourquoi du comment, comme en science, comme en éco, comme en philo sur France Culture, ce sont des réponses simples, éclairantes à des questions elles aussi simples, mais essentielles. Et c'est quoi la populace, le pourquoi du comment?
Pourquoi le peuple a remplacé la populace? Si vous ouvrez votre dictionnaire au mot populace, vous trouverez la définition suivante. Bas peuple. Avec cette précision qu'il s'agit d'un terme péjoratif, raison pour laquelle sans doute il n'est pratiquement plus utilisé aujourd'hui. Voilà un bon exemple pour montrer comment les protestations populaires peuvent triompher de l'arrogance ou de l'inconscience des élites. Thème sur lequel je reviendrai assez souvent dans cette chronique. Même lorsqu'elles sont vaincues, les résistances de ceux d'en bas laissent des traces qui contribuent à des progrès que l'histoire officielle attribue trop souvent uniquement à ceux d'en haut. Dans le discours qu'il a prononcé en 1841, quand il a été reçu à l'Académie française, Victor Hugo affirme que son but est, je le cite, « de dévouer sa pensée au développement continu de la sociabilité humaine en ayant les populaces en dédain et le peuple en amour ». Cette façon d'opposer le peuple et la populace suscita la colère de Jules Vinçart, un artisan, chansonnier saint-simonien, qui animait un journal ouvrier intitulé « La ruche populaire ». En juin 1841, Vinçart publia un article qu'il envoya à Victor Hugo. Ce dernier lui répondit dans une lettre adressée à Monsieur Pierre Vinçart, Pierre au lieu de Jules. Bon. « Je n'ai pas dit la populace, j'ai dit les populaces. Dans ma pensée, ce pluriel est important. il y a une populace dorée, comme il y a une populace déguenillée. Il y a une populace dans les salons, comme il y a une populace dans les rues. À tous les étages de la société, tout ce qui travaille, tout ce qui pense, tout ce qui aide, tout ce qui tend vers le bien, le juste et le vrai, c'est le peuple. À tous les étages de la société, tout ce qui croupit par stagnation volontaire, tout ce qui ignore par paresse, tout ce qui fait le mal sciemment, c'est la populace. En haut, égoïsme et oisiveté. En bas, envie et fainéantise. Voilà les vices de ce qui est populace. Dans son fameux livre « Classe laborieuse et classe dangereuse », l'historien Louis Chevalier évoque cette controverse entre l'ouvrier et l'écrivain académicien en soulignant que la réponse de Hugo est embarrassée et confuse. Il ajoute en disant « Utilisant spontanément et naturellement le terme populace, Hugo se conforme à un usage à l'encontre duquel se dresse une protestation qui n'est encore fondée qu'en théorie. » La faible voix de l'ouvrier Vinçart s'imposera dans l'espace public en 1848, quand la populace se soulèvera pour renverser la monarchie de Juillet, rétablir la République et accéder ainsi à la dignité d'un peuple. Dans la deuxième rédaction du livre sur Gavroche, Victor Hugo écrit « Tourbe, multitude, populace, ces mots-là sont vite dits ». Preuve qu'il n'avait pas oublié sa querelle terminologique avec Vinçart. Les distinctions ultérieures qu'il s'efforcera d'établir entre peuple et populace auront pour but d'opposer la signification ancienne du mot populace et la signification nouvelle du mot peuple. Finalement, grâce à Jules Vinçart, Victor Hugo contribuera à discréditer l'usage d'un mot qui avait longtemps illustré le mépris des élites pour les classes populaires.
C'était le pourquoi du comment de Gérard Noiriel, à retrouver, à podcaster sur notre site franceculture.fr, le pourquoi du comment, et l'application Radio France, le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Giudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, une émission dont la programmation est assurée par Mayouen Guizhou et elle aussi à retrouver, à podcaster, franceculture.fr, l'appli Radio France et sur notre site, toutes les informations sur les émissions avec le petit lien vers le pourquoi du comment.